Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de Radio Galère sur le 88.4 de la bande FM ainsi que sur le canal 8C du réseau numérique terrestre en DAB+. Sans omettre notre fenêtre ouverte sur le monde, www.radiogalère.org et nos podcasts que vous pourrez retrouver sur le site du comité Maméga au www.vivreensemble.org. L'émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy en direct du comité Maméga se déroule traditionnellement le dernier jeudi du mois de 13h30 à 15h. Exceptionnellement, c'est aujourd'hui, avec une rediffusion la semaine prochaine de cette émission. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est les CUQ. Qu'est-ce qu'un CUQ ? Un comité d'intérêt de quartier. Si vous savez à quoi ça sert et qui les compose, vous en savez peut-être un petit peu plus que certains autour de la table. Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons avec nous aujourd'hui deux représentants des CUQ de proximité. Alors, le CUQ de Sainte-Marthe et celui de Saint-Joseph, avec aujourd'hui présent avec nous Madame Christiane Giraud, qui est du CUQ de Saint-Joseph, et Monsieur Jean-Claude Fosse du CUQ de Sainte-Marthe. Il y a aujourd'hui aussi présente à nos côtés Anne-Marie Tagawa. J'ai envie de dire qu'on ne la présente plus, mais on le fera quand même. En co-animateur, nous avons aujourd'hui Monsieur Saïd Boukounouch. Notre passeuse de mémoire, Karima Berich, n'étant pas présente, il y a quelqu'un qui se cache mais qui est face à moi. Jean-Marc Ega va assister aussi à l'émission et essayer de co-animer cette émission avec moi. Je remercie Farid Adrar, notre vigile, et Sidi Diallo, qui est à la technique. Sidi Diallo, qui, je le rappelle, est technicien de Radio Galère. Nous vous remercions tous là, d'être présents. Et nous remercions nos invités d'avoir accepté de partager un peu de leur temps et de leur réflexion avec nous. Et on se laisse déjà le temps d'une première respiration musicale avec le morceau « La chanson des enfants des quartiers nord ».
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
À l'endroit où se trouvent nos maisons.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Pierrette partait avec son bidon de lait.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Dans une ferme tout près de la forêt.
Adieu vaches et cochons, ferme et forêt.
Adieu vaches et cochons.
Achète son lait.
Nous sommes en direct du comité Maméga pour les échos du Grand Saint-Barthélemy sur les ondes de Radio Galère au 88.4 de la bande FM et sur le canal 8C du réseau numérique terrestre Andap+.
Tu n'as rien dit sur la chanson ?
Je te laisse toute la liberté de dire des choses sur la chanson.
Alors, c'est une chanson qui a été faite par des élèves du collège Albert Camus, donc dans le 14e, avec leur prof. Le responsable, c'était Daniel Baum. Et c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès dans les années où tu n'étais pas né, c'est-à-dire les années 80.
Et Anne-Marie nous rappelait qu'effectivement, le refrain a été repris par le rappeur Sosobanes, qui est un rappeur de fond vert. Donc nous sommes toujours sur les ondes de Radio Galère pour les échos du Grand Saint-Barthélemy. Vous pouvez nous joindre au 07 49 53 26 38. Nous serons en votre compagnie jusqu'à 15h. Madame Giraud, je sais bien que vous devez partir avant, ne vous inquiétez pas, mais nous sommes sur les ondes de Radio Galère jusqu'à 15h en tout cas. Et justement, Madame Giraud, bon, certains d'entre nous vous connaissent sur le Grand Saint-Barthélemy et pour cause, vous avez œuvré sur le territoire pendant de longues années. Et je vais vous laisser vous présenter.
Oui, si vous voulez. Actuellement, je suis la présidente du CIQ de Saint-Joseph, donc je vais vous parler d'une expérience là, de sept années d'engagement dans le quartier. Mais auparavant, j'étais médecin généraliste pendant 35 ans dans la cité du Mail. Et maintenant, je suis devenue médecin spécialisée dans le handicap mental. Donc, je ne travaille plus du tout en libéral. Pour l'instant, voilà. Et pour tout dire, actuellement, là, dans ce mois, je fais une pause professionnelle pour des tas de raisons. Voilà.
Je vous remercie, Madame Giraud. Donc, vous nous avez répondu déjà aux questions. Vous avez anticipé 7 ans sur les CEQ de Saint-Joseph. Sur Saint-Joseph, quels quartiers sont concernés, qui sont regroupés au sein de CEQ ?
Si vous voulez, le quartier de Saint-Joseph. Alors, c'est difficile. Je vais vous dire. Les CEQ, il y en a 180 actuellement. Et c'est une particularité de la ville de Marseille. Ils ont été créés par Gaston Defferre. Et c'est une organisation territoriale, si vous voulez, autour d'un arrondissement, autour d'une mairie précise. Ce qui fait que, je vais vous donner l'exemple du 14e arrondissement, nous sommes dans le 14e arrondissement, vous avez 7 CIQ dans le 14e, Sainte-Marthe, Saint-Barthélemy, au Cadet il y en a 2, Saint-Joseph, donc vous avez une organisation territoriale. Il est parfois difficile de connaître sur une carte, de suivre sur une carte les délimitations de chaque CIQ. Vous voyez ? Mais nous sommes liés à la mairie, par exemple, de secteur, et nous devons normalement être des intermédiaires entre la mairie et les habitants. C'est l'idée, si vous voulez, qui a été conçu par Gaston Defferre, qui n'était pas, si vous voulez, dans une transparence totale, parce qu'on peut supposer qu'il y avait un calcul électoral, comme par hasard, pour aider M. Defferre à rester en place. Et ça a été repris par M. Gaudin, par cette façon, si vous voulez, d'avoir une certaine emprise territoriale à but électoraux. Mais beaucoup de CIQ s'échappent, si vous voulez, de cette emprise, surtout maintenant, parce qu'il y a eu un renouvellement de génération, et les personnes qui sont dans les CIQ sont beaucoup plus orientées sur les problèmes locaux des habitants, en particulier, puis je vais céder un petit peu la place à mon collègue de Sainte-Marthe, ils sont surtout axés normalement sur les problèmes de voirie, les problèmes de propreté, les problèmes de sécurité. Et j'ajoute que nous n'avons, lorsque nous faisons partie d'un CIQ, nous signons une charte, nous n'avons absolument pas le droit de prendre des positions politiques au sens, je vais préciser, au sens de parti politique. Hein ? Je n'ai pas le droit de représenter un parti politique, sinon je suis tout de suite éjectée d'un CIQ. Mais si vous adoptez la compréhension que la politique, c'est le problème de tous, c'est le problème des citoyens d'un enracinement local, nous sommes dans la politique à ce niveau-là.
Monsieur Fosse.
Jean-Claude Fosse, donc représentant du CIQ Sainte-Marthe, depuis peu, car j'habite le quartier seulement depuis 3 ans. J'ai voulu me rapprocher du comité d'intérêt de quartier. On a l'habitude de dire CIQ, mais au moins comité d'intérêt de quartier libelle bien les utilisations, les moyens dont nous avons besoin pour faire vivre un secteur, un quartier qu'on dit aujourd'hui territoire. Pour moi, le comité d'intérêt de quartier a tous les rôles de relation, surtout entre les citoyens et les habitants, avec les structures qui existent encore dans nos quartiers et malheureusement ces structures diminuent, tant au niveau des services publics, au niveau des prestations, au niveau des commerces possibles de proximité. Elle diminue trop souvent aussi au niveau des activités sociales et des relations que les citoyens ont à avoir avec divers rôles. Et pour autant, le comité d'intérêt de quartier n'est pas, de mon point de vue, le représentant des services publics et ne doit pas agir à leur place, ce pourquoi on nous prend souvent à tort. Un exemple récent sur le quartier Sainte-Marthe, et quand on dit quartier, c'est bien un secteur géographique très précis, c'est le village de Sainte-Marthe, principalement, mais la partie géographique du comité d'intérêt de quartier de Sainte-Marthe va jusqu'à Tours-Sainte, elle va jusqu'à la Busserine, elle va jusqu'à la limite Saint-Joseph-Sainte-Marthe aussi. Et il y a bien des sujets à traiter, qu'ils soient d'ordre de voirie, qu'ils soient d'ordre de circulation, qu'ils soient d'ordre de relations et de vie au quotidien. Le comité d'intérêt de quartier, il doit organiser, il peut, mais de mon point de vue, pour aller dans le sens espéré, c'est organiser des activités à tout niveau possible avec les citoyens qui veulent bien y contribuer. C'est pour ça que la notion d'adhésion à un comité d'intérêt de quartier permettra de faire vivre ce comité, permettra de lui donner une valeur en termes d'interlocuteur par la représentativité que constitue son nombre d'adhérents. Un exemple, j'ai parlé d'exemples récents, les services dits publics, qu'on appelle désormais les services au public, la disparition des bureaux de poste. Dans tous les environs, il ne reste qu'un bureau de poste dit principal à Saint-Barthélemy et un bureau secondaire à Sainte-Marthe. Saint-Joseph n'existe plus, le Merlin existe encore avec beaucoup de difficultés, mais les services de ces directions, la poste, ont tendance à vouloir tous les supprimer sous prétexte de rentabilité insuffisante. Le rôle du CIQ, avec les habitants et avec les citoyens, a été d'arriver à maintenir le bureau de poste de Sainte-Marthe. Au départ, sur des bases de pétitions signées dans la rue par les utilisateurs de ce bureau de poste. Ensuite, avec l'appui du comité d'intérêt de quartier, qui a pu, par ce biais-là, s'adresser à la mairie de secteur, à la mairie centrale, et enfin la direction de poste, qui a réouvert le bureau de Sainte-Marthe, sur lequel il faut rester vigilant pour autant, parce qu'il est désormais le seul service public dans le quartier. Il est aussi le seul distributeur de billets à plusieurs centaines, voire kilomètres à la ronde. Voilà un exemple flagrant. Dans le futur, on peut utiliser aussi d'autres exemples plus de loisirs, un vide-grenier, par exemple, qui est une notion de rencontre des habitants, qui apporte des effets de contact, qui apporte des effets sociaux aussi, parce qu'on considérera que notre vide-grenier, il n'est pas à but professionnel, mais bien dans l'usage et pour les usagers du quartier.
Bien. J'ai une question peut-être un peu délicate. À part le nombre d'adhérents que vous avez, qu'est-ce que c'est qui fonde votre légitimité ?
Nous sommes tout à fait légitimes dans la mesure où les CIQ sont une organisation reconnue, officielle. Alors, les CIQ sont regroupés par arrondissement en fédérations et les fédérations sont regroupées en confédérations. Donc, le représentant des CIQ de quartier, c'est la confédération des CIQ de Marseille, dont le siège est au boulevard Garibaldi. Voilà. Alors, cette confédération, pour vous dire à quel point elle est officielle, je vous ai parlé pour nous, là, localement, des problèmes locaux. Mais lorsque les hôpitaux veulent avoir des usagers dans les représentants au conseil d'administration des hôpitaux, ils se tournent vers les CIQ, par exemple. Il y a de nombreuses institutions qui se tournent vers nous pour nous impliquer, si vous voulez, soit dans la communication, soit dans la santé, dans des tas de domaines différents. Et ça dépend aussi, bien sûr, de chaque CIQ, de sa façon de fonctionner. Voilà. Mais sachez que c'est vraiment une organisation reconnue officielle qui, au jour d'aujourd'hui, il y a 180 CIQ qui ont eu tendance à sortir de Marseille et à aller dans les petites villes périphériques ou sur la Côte Bleue.
Merci beaucoup, docteur Giraud. Je vais peut-être laisser la parole à Anne-Marie, qui est un petit peu silencieuse, mais bon, de la présentation déjà.
D'avoir pris contact avec le groupe de veille, dans un premier temps, lorsque nous avons mis en œuvre une action forte contre la fermeture de la crèche de la Busserine, et en ce sens, on se rejoint sur la volonté de maintenir les services de proximité, que ce soit les services publics ou que ce soit des ressources propres sur un territoire. On s'est battu et on se bat toujours pour que la crèche rouvre ce qu'on est en situation d'obtenir. Et c'est Christiane qui a pris contact avec nous en disant qu'il y avait des discussions, si je me rappelle bien, au sein de leur CIQ, sur les réactions par rapport à la fermeture de cette crèche et notamment la question, alors je raccourcis un peu, mais de l'implication des habitants par rapport à l'activité de trafic autour qui aurait fait que la crèche ferme et qui questionnait là-dessus. Voilà. Donc ce à quoi on a trouvé d'une part que c'était bien qu'il y ait un rapprochement d'une instance qui existait, qui se battait pour quelque chose. Et du coup, on a maintenu ce lien ensemble pour s'informer mutuellement des différentes actions jusqu'à ce que là, il y ait la proposition du CIQ de nous rencontrer par rapport à l'organisation d'une table ronde qui a lieu ce soir, d'une réunion publique. Alors, la première question qui se pose, moi je fais partie du groupe de veille. Le groupe de veille, je ne sais pas s'il faut le redire, mais on a déjà fait des émissions là-dessus.
Peut-être une petite présentation.
Petite présentation qui est née en 2016 suite à un événement sur le quartier qui a fait se questionner des habitantes, parents d'élèves par ailleurs, sur l'intrusion dans l'école qui était toute neuve de personnes, de consommateurs de drogue en train de s'injecter des drogues dans la cour de l'école devant les enfants. Donc ça a produit une réaction de la part de ces parents et il se trouve que certaines de ces habitants, parents, étaient déjà engagés dans à la fois le centre social Agora mais aussi dans un groupe qu'on appelle Habitants à l'épreuve des trafics et qui travaillait sur ces questions-là, de comment se positionner par rapport à la question des trafics, de la consommation sur le quartier. Et du coup, il y a eu un travail de fait sur comment réagir sur un phénomène comme ça, qui pose la question de la sécurité de l'école, qui pose la question de la réaction des habitants, c'est-à-dire refuser de tomber sur le pugilat dehors les toxicos, à mort les toxicos, et aussi de former les gens à comment on pouvait réagir. Plus s'est posée à ce moment-là la question des seringues, qui était un phénomène assez important sur le quartier, sur des tas d'espaces qui étaient laissés à l'abandon. Donc il y a eu tout un travail qui a été mis en œuvre à partir de ça, et la construction de ce travail a fait que, ben là, les habitantes en question, les mamans en question, ont dit, mais en fait, c'est bien de fonctionner comme ça, c'est-à-dire que ça serait bien qu'on mette en place une instance qu'on a appelée de veille, qui soit capable de réagir dès qu'il y a une alerte sur le quartier, est capable de faire deux choses. Après, c'est voir comment on peut réagir sur le terrain, quelle action on peut mettre en place avec les habitants. Et la deuxième axe, c'est comment interpeller les pouvoirs publics dès lors qu'on considère qu'ils sont concernés par la résolution de tel ou tel problème. C'est ce qu'on a fait là avec les services de la ville sur la question des seringues. Et puis, voilà. Donc, le groupe de veille existe depuis, il s'est structuré, organisé, il s'est doté d'une charte. Il est constitué de la majeure partie des associations sur le territoire Picon, Busserine, Saint-Barthélemy-le-Mail et d'habitants qui ne sont pas forcément dans des associations et qui ont envie de se mobiliser en fait, sur leur cadre de vie. Les axes qu'on défend, ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la question du cadre de vie, de la propreté, de la voirie, de la sauvegarde des services publics. On s'est mobilisé par exemple avec la Poste sur la question de la distribution des colis. On n'a jamais eu de bureau de poste ici, mais on se serait battu si on nous avait menacé de l'enlever. La crèche de l'œuf, on en parle. La plaine des loisirs, qui est un espace à côté qui va être ouvert et dont les discussions traînent depuis maintenant, sont engagées depuis 4 ans. Et qui va être un espace de vie assez important sur le quartier, mais qui va plus que sur le quartier, être sur l'ensemble du 14e. Et on se bat pour que cet espace soit un espace respecté, mis en œuvre en lien avec les habitants, etc. Voilà, donc c'est toutes les actions qu'on met en œuvre. Et moi, je dirais que la question, quand on entend parler des CIQ, aujourd'hui, c'est pourquoi le groupe de veille n'est pas rentré dans le CIQ. Et en fait, quand j'ai eu Mohamed, le président du CIQ de Sainte-Marthe, il me disait, mais en fait, notre CIQ, il couvre votre territoire, en fait, hein, aussi de la Busserine, Saint-Barthélemy 3, etc. Donc, vous pourriez très bien être intégré au CIQ. Voilà. Je crois que ce qui a été dit fortement par le groupe de veille dès le départ, c'est qu'on ne voulait pas du tout être, entre guillemets, instrumentalisé. Donc, il n'était pas question qu'on soit une voie de transmission de la part des institutions, et on y prend toujours garde actuellement, et en particulier des politiques. Par exemple, un des axes forts qui a été dit au début, c'est qu'on refusait de demander des subventions. Et on continue à ne pas demander de subventions. On reste libre de des propos qu'on a, des discours qu'on a, des actions qu'on met en œuvre. Donc il y avait ça qui était d'une part. Et puis je dirais, sans mettre les pieds dans le plat, qu'au moment où le groupe de veille s'est créé, l'image des CIQ, pour nous, elle était, j'allais dire, pas du tout celle que vous expliquez actuellement. C'est-à-dire on avait l'image des CIQ, noyau villageois, les commerçants, et on va dire plutôt la courroie des propos ou des positionnements du Front National, voilà, qui était pour nous un vrai problème. Donc on s'est dit, plutôt que de se rapprocher, bien, on crée notre propre instance. C'est pour ça que je trouve aujourd'hui super qu'en fait on se rapproche, parce qu'à un moment donné, comme on le disait l'autre fois quand on s'est rencontrés, bien, l'union fait la force, et qu'il va falloir aussi qu'on travaille sur le décloisonnement de nos actions pour s'informer, communiquer, et puis peut-être mettre en place des liens entre nous pour qu'à un certain moment des actions, on s'épaule et on s'organise ensemble. Voilà.
Merci Anne-Marie. Docteur Giraud, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, je voulais vous dire que il faut que le CIQ, c'est comme les associations, si vous voulez. On est en proximité avec des habitants. Voilà. Et il faut faire très attention, je dirais, au contexte général. Pas que politique. Je pense que, par exemple, la disparition des services publics doit aussi être mise en relation avec une évolution technologique de nos sociétés. Vous avez beaucoup d'institutions qui, actuellement, reculent dans leurs relations humaines et gèrent leurs services avec l'intelligence artificielle. Donc, vous allez prendre ça pour la Poste. Maintenant, les rapports avec la Poste peuvent se faire en ligne directement à partir de votre ordinateur. Sauf que ça voudra dire toujours une chose, c'est que ceux qui n'ont pas l'instruction, eh ben, ils n'auront pas accès à ces services publics. Voilà. Donc ça, je pense que ça, je voudrais vous rappeler un contexte général. Et il me semble qu'on ne sera jamais assez nombreux pour prendre garde que l'habitant d'un territoire ait droit aux services publics, puisse participer à la vie citoyenne sans forcément passer par les robots et la contrainte de l'intelligence artificielle. Vous voyez, on voit très bien se dessiner cette évolution dans nos quartiers.
Monsieur Fosse, vous vouliez réagir, il me semble.
J'aurais envie de dire qu'il ne faut pas confondre services publics et services au public tels qu'on les conçoit aujourd'hui. La fracture numérique entraîne effectivement les difficultés qui ont été évoquées à l'instant. Mais c'est aussi une notion de rentabilité pour ce que l'on appellera la Poste, France Télécom, et bien d'autres, voire le milieu hospitalier, voire les services médicaux en général. Et puis, de toute manière, il y a la notion d'instruction, il y a la notion de moyens financiers aussi, pour avoir la possibilité de s'abonner à un quelconque moyen, alors que la communication doit être disponible pour tous. Aujourd'hui, ne pas avoir ces éléments en position, disposition, utilisation, c'est grave pour la relation de tout citoyen. Aujourd'hui, il est bien plus facile de payer ses impôts par Internet. Il est bien plus facile de payer une amende par Internet. Ça devient un plaisir, tellement ça marche bien. Par contre, si vous voulez vous adresser à la sécurité sociale, si vous vous adressez un milieu hospitalier via le fameux Doctolib qui nous a été imposé et qui est une source financière pour des grandes structures, ça ne répond pas aux besoins du citoyen de tout niveau et tous les jours.
Nous sommes bien d'accord. Je vous remercie pour vos interventions et on va se laisser avec une nouvelle respiration musicale avec un morceau d'un jeune prodige des quartiers nord. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Ce jeune pianiste de la Castellane qui s'appelle Mourad et qui a sorti un album qui s'appelle Prémisse. Et là, le morceau que nous allons écouter est le morceau intitulé Marseille. Les échos du Grand Saint-Barthélemy. Les échos du Grand Saint-Barthélemy avec nos invités en direct des locaux du Comité Maméga sur les ondes de Radio Galère, toujours en présence du docteur Christian Giraud, qui représente aujourd'hui le CIQ de Saint-Joseph, monsieur Jean-Claude Fosse, qui représente le CIQ de Sainte-Marthe, et Anne-Marie Tagawa pour le groupe de veille. Donc, j'avais des questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Peut-être revenir sur le statut des CIQ. Quel statut juridique régit un CIQ ?
C'est une association, si vous voulez, loi 1901, mais on a des statuts modèles, si vous voulez, qui consacrent le fait qu'on est au service de la population pour certains types de fonctions. Et ça règle, bien sûr, le fait, comme dans toute association, d'avoir un conseil d'administration, d'avoir comment on fait pour avoir des adhérents, le montant de la cotisation. C'est vraiment... Ça n'a pas une spécificité autre que d'être, si vous voulez, sur un territoire précis. Voilà.
Et justement, qui définit ce territoire ?
Ça a été défini historiquement. Ça a été défini historiquement et je pense que ça va actuellement, ça va être... Il va y avoir une redéfinition de ces territoires parce que, si vous voulez, ça date de fer, les choses bougent et ça va... Il va y avoir une reprise en main, si vous voulez, au niveau des territoires. Et de toute façon, les statuts de la Confédération sont en train de changer. Donc ça va rejaillir sur l'ensemble des CIQ, puisque jusqu'à présent, la Confédération avait le statut d'intérêt public. Et il va falloir qu'elle l'abandonne pour le statut d'intérêt général. Et je voudrais juste vous préciser quelque chose de très important. Les CIQ n'ont pas d'argent. Ils ne reçoivent pas de subventions, nous ne sommes pas payés, nous sommes totalement des bénévoles et l'argent dont nous disposons, c'est ceux des cotisations des adhérents. Alors quand vous avez 30 adhérents et que vous avez 10 euros par adhérent, vous voyez, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, vous voyez, on aurait de l'argent. On n'a pas d'argent. Il y a la Confédération... A eu, si vous voulez, des locaux payés par les maires de Marseille, a eu certains types d'avantages, mais normalement, nous n'avons pas de subventions.
Merci. Et au sujet de vos adhérents, du coup, quel type d'adhérents on retrouve au sein de nos associations ? Voilà, des personnes morales ?
Alors, normalement...
Le nombre d'adhérents est variable suivant les comités d'intérêt de quartier, bien sûr, de 30, par exemple. Comprendre à Saint-Joseph, à 110 au niveau de Sainte-Marthe. Et parmi ces adhérents, il y a des habitants, il y a des commerces, et je crois même des associations qui, si elles ne sont pas adhérentes à titre de leur nom d'association, mais au moins des membres de ces associations qui travaillent, agissent avec le comité d'intérêt de quartier. L'adhésion, elle est très facile. Elle est individuelle, mais ils peuvent agir en leur nom, en tant que membre d'une association, pour autant. L'exemple de niveau de cotisation est sur la base de 10 euros. Je ne sais pas si c'est général, mais c'est au niveau du comité d'intérêt de quartier de Sainte-Marthe, 10 euros minimum. Rien n'empêche des contributions supérieures, suivant les capacités des uns et des autres, et de leur implication dans le fonctionnement voulu pour le comité d'intérêt de quartier.
D'accord. Donc, vous n'avez pas d'argent pour fonctionner, mais est-ce que vous pouvez quand même répondre aux appels à projets de type politique de la ville ou des fondations ou des choses de ce genre de choses-là ?
Appel à projets, si vous voulez, ce que nous pouvons faire. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, nous avons été contactés pour la rénovation de la Bastide, du château de la Bastide du chemin de Fontainebleau, qui n'est pas le château de Fontainebleau. Alors, bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Bastide, parce que je l'ai appris dernièrement. Il y a une personne qui m'a emmené visiter cette Bastide. Voilà. Vous avez des associations sportives qui utilisaient cette Bastide comme vestiaire pour le sport ou comme lieu de rencontre. Actuellement, vous avez ces associations seraient partantes pour une rénovation en tant que CIQ. de Saint-Joseph, on ne fera que relayer, si vous voulez. On se met en rapport avec les associations. Si elles veulent cette rénovation, moi j'écris en leur nom à Martine Vassal, en lui demandant quels sont ses projets pour la rénovation de cette bastide, ce qu'elle compte en faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se positionne pour mettre en relation les associations et l'institution de la métropole. Nous, en tant que CQ, si vous voulez qu'on rénove ou pas, je veux dire, on n'a pas un intérêt personnel, vous voyez. Je pense que c'est pour ça qu'on va demander aux associations si, en demandant cette rénovation, elles portent un projet, si elles ont envie d'un projet plutôt qu'un autre. Voilà.
Alors concrètement, quelles sont vos relations avec les élus ? Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier ? Vous avez des rendez-vous réguliers prévus ? Ou est-ce que c'est à votre demande ou à leur demande que les rencontres se font ?
Pour nous, c'est très aléatoire. Nous, on travaille plutôt avec la maire de secteur. Vous voyez ? Pas tellement. Alors, si la maire a des relations conflictuelles avec ses élus, inutile de dire qu'on ne va pas passer par les élus. Mais si vous voulez, moi, on a un très bon contact avec la maire de secteur qui, lorsqu'on lui fait une demande, répond positivement. Mais ça s'arrête là. Si vous voulez, nous ne sommes pas du tout une courroie pour les élections. Quel que soit, si vous voulez, le parti politique qui a la mairie de secteur, nous travaillons avec eux. Et nous, je vous ai dit, nous n'avons pas le droit d'émettre un jugement politique en tant que parti. Rien ne nous empêche de pointer du doigt des applications sur le terrain qui ne seraient pas comparables à ce qu'on voudrait, qui ne seraient pas dans l'objectif de ce que nous voulons.
Le comité d'intérêt de quartier de Sainte-Marthe a aussi l'habitude de faire le plus souvent possible, de l'ordre de un mois et demi ou au moins deux par trimestre, réunions publiques. Lors de ces réunions publiques, on fait part aux divers interlocuteurs, mairie centrale, mairie de secteur, de cette date proposée. Et le principe est d'inviter les élus représentant tel ou tel sujet qui peuvent concerner le quartier. C'est une solution qui permet aux habitants d'intervenir, de les interpeller, de les questionner en direct, de manière à leur faire part de leurs divers problèmes, qu'ils soient au coin de la rue ou plus largement dans l'ensemble du quartier. Ça peut aller effectivement du problème du nettoiement, au problème de la circulation, au problème de l'entretien de tel ou tel arrêt de bus et tel ou tel service dont ils auraient besoin, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses ensemble le plus souvent possible. Le comité d'intérêt de quartier se doit, de mon point de vue, de rendre compte aussi aux habitants des courriers qu'il a pu adresser aux divers interlocuteurs et surtout des réponses obtenues ou non et pourquoi.
Oui, et donc, on revient un peu en arrière, la question de la délégation. Est-ce que c'est une délégation de la mairie centrale ? Sur quel fondement ce genre de délégation se fait ? Est-ce que n'importe quelle maire dirait « Bon, finalement, le CIQ, stop, ça suffit du jour au lendemain » ou est-ce qu'il y a un contrat de long terme ?
Alors, il y a un contrat qui est que, si vous voulez, normalement, les CIQ sont des médiateurs attachés à une mairie. Ils sont une assise territoriale et doivent être médiateurs entre les habitants et la mairie. Ils sont censés représenter les habitants du quartier, ce qui n'empêche pas les associations aussi. Mais ça, c'est normalement le rôle des CIQ. Voilà. Mais par exemple, je vous donne un autre exemple. Nous, on a travaillé beaucoup avec un élu qui s'appelait Monsieur Ali Yatsou, qui était élu culturel à la mairie du 13-14. Et c'est avec lui qu'on a porté le projet et qu'on a réalisé la boîte à livres que vous avez dans l'intérieur de la mairie. On a voulu qu'il y ait une boîte à livres. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas d'argent. Ce n'est pas nous qui l'avons payé. Mais c'est la mairie de secteur qui a payé la boîte à livres. Voilà. Et nous, on l'a mise en relation avec le désir des habitants et avec notre désir. Ceci dit, il se trouve que M. Ali Yatsou, après, s'est trouvé sur une liste d'opposition et qu'on n'a plus de relation avec M. Yatsou. Mais vous voyez, c'est pas notre. Nous faisons appel aux fonctions des personnes, hein, pas à leur couleur politique, aux fonctions. Vous êtes élu des sports, on va vers vous pour vous demander l'entretien d'un boulodrome, l'entretien d'un stade, vous voyez.
Mais avez-vous une oreille particulière auprès des élus, auprès par exemple de la maire actuelle et concernant la mairie précédente, quels furent aussi les liens que vous avez tissés aussi, parce que cela prête, comment dirais-je, aussi à certaines interprétations et certaines confusions, pourrions-nous dire aussi.
Vous êtes mal tombé avec moi parce que je n'ai jamais de relation avec les élus. Je ne les cherche jamais, c'est eux qui me cherchent. Et en plus, je mets des barrières. C'est-à-dire que quand je reçois des coups de téléphone d'élus, est-ce qu'on peut venir à vos AG? Je dis non, sauf à l'Assemblée générale. Donc je ne suis pas du tout... Vous voyez, chacun a un petit peu sa marge de manœuvre. À Sainte-Marthe, il rencontre régulièrement les élus. Alors, par exemple, pour la mairie centrale, vous avez quand même posé le problème de la mairie centrale, c'est que vous avez une élue de la mairie centrale, Marguerite Pasquini, qui est adjointe au CIQ. Vous voyez, elle était sur la liste de Samia Ghali. Elle fait partie maintenant de la mairie centrale et c'est une adjointe pour les relations avec les CIQ. C'est-à-dire, c'est elle qui doit se mettre en relation avec nous et faire remonter à la mairie centrale. Voilà. Ceci dit, soit on le fait, soit on ne le fait pas.
Je vous remercie, docteur Giraud. Alors, comme je le disais précédemment, madame Karima Berich ne peut être présente avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais en tout cas, c'est une sociologue qui est beaucoup intervenue sur les territoires et continue d'intervenir. Et on va revenir un petit peu sur ce que tu disais, Anne-Marie, à travers les mots de Karima, où elle raconte une initiative émanant du territoire, puisque nous, on l'a compris aujourd'hui, nous sommes rattachés au CIQ de Sainte-Marthe, mais pour nous, nous n'y avons pas de CIQ. Donc il y a une initiative qui a été prise, qui était d'essayer de créer un CIQ sur le Grand Saint-Barthélemy. Donc je vais vous lire les quelques mots de Karima. Donc ce qu'elle dit, je n'ai plus en mémoire les dates des discussions des associations de locataires du Grand Saint-Barthélemy qui se sont réunies dans les locaux de l'association CSF des Flamands entre 2011 et 2012, me semble-t-il. L'objet de ces discussions était de créer un collectif interquartier pour défendre globalement les intérêts des habitants du Grand Saint-Barthélemy. Grand Saint-Barthélemy, qui peut-être, dois-je le rappeler, je ne suis pas sûre, comporte 7 quartiers, dont une copropriété dégradée, celle du Mail, dont dans les quartiers, il y a Saint-Barthélemy, la Busserine, le Picon, les Flamands, la Benosse et Fontvert. Il ne me semble pas en avoir oublié. J'en ai oublié un. Désolée, les Iris. Donc, alors, il voulait créer ce collectif interquartier pour défendre globalement... J'ai dit la Benosse. Alors, je ne suis pas politique de la ville, je n'ai pas oublié la Benosse. Donc, pour défendre globalement les intérêts des habitants du Grand Saint-Barthélemy, peser collectivement sur les projets de rénovation en cours, notamment ceux des Flamands et des Iris, ou ceux en prévision à l'époque, Busserine, Picon, Saint-Barthélemy 3. Le monstrueux chantier de la L2 et la couverture de l'avenue Salvador Allende, ou toute autre problématique propre à ce territoire. L'idée était effectivement de ressembler à un CIQ de quartier tel que ceux de nos voisins, CIQ de Sainte-Marthe, du Merlan et de Saint-Barthélemy, pesant ainsi autant que faire se peut sur les décisions politiques, institutionnelles, des bailleurs, des politiques publiques, sur le présent et l'avenir de nos cités. Vous voyez un petit peu tout ce qui est projeté sur un CIQ. Vous n'aviez pas l'impression que c'était la représentation que nous avions, nous, sur le territoire en termes de pouvoir pour le CIQ. Donc, elle rappelle que le destin des habitants du Grand Saint-Barthélemy ne se fait pas avec, sans nous, mais avec nous. Bon, c'est un clin d'œil à l'association avec nous, présidée par Fatima Moustefaoui, qui n'est malheureusement pas présente avec nous aujourd'hui. In fine, ce projet de création d'un collectif interquartier n'a pas abouti. Par contre, dès 2013, c'est la création informelle du collectif des habitants et des associations du Grand Saint-Barthélemy qui voit le jour, présidée par Pierre Lézot, qui était à l'époque coordonnateur du comité Maméga. Ce collectif, qui rassemble un certain nombre d'acteurs associatifs et d'habitants du Grand Saint-Barthélemy, se pose de fait comme un interlocuteur incontournable auprès de tous, État, collectivités, politiques publiques, logeurs, etc. Malgré la disparition du collectif des habitants et du Grand Saint-Barthélemy, nous avons aujourd'hui l'opportunité de compter sur deux structures qui sont le groupe de veille, ici présent en la personne d'Anne-Marie, et l'association Avec Nous. C'est sur ces mots que Karima termine son intervention. Donc toi, Anne-Marie, peut-être que tu peux... Voilà.
Est-ce que ça marche? Oui. Oui, je me souviens très bien de cette période, parce qu'à l'époque, l'idée, c'était effectivement de constituer un rapport de force et d'avoir une structure représentative. On avait ici Solange Garin, qui est décédée aujourd'hui, qui en fait disait faire partie des CIQ, c'est-à-dire que je pense qu'elle était un peu une personne qui se transplantait dans le CIQ de Sainte-Marthe ou du Merlan, je ne sais plus. Mais ici, on avait on n'avait pas de représentation, effectivement, d'un CIQ, alors qu'on se disait à ce moment-là, si on veut être représentatif et pouvoir faire quelque chose, il faut peut-être qu'on s'organise avec les outils qui existent déjà, en fait. Mais sans savoir vraiment trop ce que c'était. C'est-à-dire, on ne s'est jamais tellement rapproché non plus. Je vois la question de Nadège des Flamands qui dit pourquoi les CIQ ne se préoccupent pas des cités qu'il y a autour. Je crois que c'est vraiment des questions au départ peut-être de liens de personnes, c'est-à-dire qui s'impliquent et qui créent après le réseau. Voilà. Ici, il a été décidé de créer le collectif du Grand Saint-Barthélemy et après le groupe de veille, parce que ça nous semblait être une organisation qui permettait de créer le rapport de force dont on avait besoin, notamment autour des travaux de l'ANRU et de la L2. Ça a quand même été les grosses bagarres qui ont été menées à ce moment-là. Et on s'est doté de cet outil-là qui restait depuis la forme en fait, d'organisation dont on se dote ici. Je ne sais pas aujourd'hui, je ne saurais pas dire encore aujourd'hui. Si, je sais après l'intervention de nos collègues qu'il me semble que ce soit difficile, vu l'histoire des CIQ et la façon dont elles sont leur mission au départ. C'est-à-dire que tant que ça reste une instance de médiation entre les habitants et les politiques, je crois qu'on ne peut pas se retrouver, nous, là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble par rapport à nos objectifs, à nos actions, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont les mêmes. Mais en même temps, c'est quelque chose que nous, on refuse aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut garder une parole directe, voire même à des moments donnés des confrontations, qui vont être des confrontations politiques, à certains moments, avec les instances telles quelles qu'elles soient, je pense qu'on a envie de garder ça. C'est pour ça qu'on reste sur une instance qui n'est peut-être pas officiellement reconnue, mais qui crée un cadre qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même reconnu comme interlocuteur sur ce territoire. Voilà.
Oui. Madame Giraud, oui.
Je voulais vous dire que le CIQ de Saint-Joseph, depuis donc 7 ans que je le préside, s'est mis en rapport et travaille avec le syndic de la Morlette, le syndicat des locataires et des propriétaires de la Morlette. On s'est tout à fait impliqué dans la réhabilitation de la grande cité de la Morlette, hein. Et de mémoire, c'est plusieurs milliers d'habitants dans la cité de la Morlette. Nous nous sommes mis en relation avec les micocouliers. Nous avons quelqu'un qui faisait partie du syndicat des locataires des micocouliers qui participe régulièrement au CIQ de Saint-Joseph. Et personnellement, j'ai servi de médiation dans un conflit à la Simiane, la cité de la Simiane, dans un litige qu'il y avait entre le syndicat et l'ancienne maison de retraite de foyer de vie qu'il y avait, Soleil de Provence. Voilà. Il y avait un litige territorial. Voilà. Donc, si vous voulez, nous, on n'a jamais fait de discrimination et on a toujours eu la porte ouverte et même des démarches vis-à-vis des cités. Voilà. Hein, sur notre territoire. Voilà.
Je trouve, d'abord, je vous remercie pour la démarche, d'avoir fait la démarche auprès du groupe de veille, déjà, ce qui est extrêmement intéressant pour décloisonner les relations. Cela aussi contribue à ce que nous pourrions qualifier de décolonisation des esprits, dans le sens où, tant au niveau des différentes associations, me semble-t-il, de certaines personnes qui pensent qu'au niveau des CIQ, ce sont des lieux où il y a des assemblées qui seraient monocolores, d'une part, avec des idées bien arrêtées. Et de l'autre côté, la question que nous pouvions nous poser, c'est de savoir quels étaient les clichés qui étaient véhiculés au sein des CUQ aussi concernant les quartiers tels que les nôtres, sur les quartiers populaires. Donc le fait que vous puissiez vous mettre en lien avec ces quartiers, ça me semble être extrêmement important parce que ça permet peut-être de favoriser différents projets, faire émerger différents projets communs et de lutter contre ce que nous pouvons penser, cette monocoule, un comité monocolore où il n'y a que les mêmes qui siègent et surtout que ça concerne que les noyaux villageois.
Alors écoutez, je vous fais une dernière intervention et je dois partir. Je voudrais vous dire que cette histoire de décolonisation des esprits, elle n'est pas que dans un sens. Tout le monde, à un moment, porte ses préjugés. Que ce soit les gens des cités, que ce soit le petit propriétaire de sa maison et de son bout de jardin. Il est difficile de casser les codes pour avancer sur le terrain. Vous voyez ? Donc, nous, il se trouve que... On a toujours eu les gens de la Morlette, nous avons qui se sont impliqués dans la réhabilitation, qui sont prises avec une œuvre gigantesque. C'est une œuvre gigantesque, cette réhabilitation de la cité. Mais on peut très bien, si vous voulez, imaginer des cités. Moi, je sais que quand j'ai débarqué au Micocoulier, qu'est-ce que vous foutez là ? Enfin, plus ou moins, vous voyez, peut-être pas les Micocouliers, mais d'autres. Bon, c'est très difficile aussi de casser, et il faut se méfier actuellement d'un mouvement d'enfermement, d'encerclement lié aux activités illégales de certaines cités. Moi, je ne peux pas aller à la Paternelle. Je ne peux pas nouer des relations avec la Paternelle. La Paternelle est aux prises actuellement avec un tel problème de réseau autour de la drogue que, si vous voulez... Moi, je ne suis pas dans le western, je ne peux pas y aller, ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, je suis d'accord que nous aussi, ou dans certains CIQ, il y avait peut-être une mentalité très petit propriétaire, c'est possible, surtout historiquement. Mais maintenant, je peux vous assurer, enfin, je vais à la Confédération, et je trouve que les mentalités changent, et qu'on voit, par exemple, beaucoup de gens d'origine immigrée qui sont à la tête d'un CIQ, hein.
Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, me semble-t-il. Bon, pour nous, c'est entrevoir des possibilités. L'intitulé, c'est les champs de possibles. Donc ouvrons quelque chose de cet ordre-là et envisageons des actions pour effectivement contribuer à ces décolonisations des esprits, ce qui me semble être extrêmement important. Parce qu'effectivement, il y a une possibilité que l'on puisse penser ce que l'on pense, avec toutes les stigmatisations en lien avec le quartier. Et on peut penser aussi que lorsqu'on parle, y compris de la Paternelle, malheureusement, c'est toute une population qui est prise en otage. Hein. Ça, c'est le mot de Farid. Mais à juste titre, on peut considérer... Il y a eu un ouvrage qui était extrêmement important, qui est toujours d'actualité, qui a été écrit par Georges Lemoine, « Les cités interdites ». Et notamment, il y a une phrase qui m'intéresse, qui est de dire, qui me semble être importante, c'est de dire « Il n'y a pas de population difficile. Il y a une population en difficulté. » Il n'y a pas de cité interdite, il n'y a que des situations qui ne devraient pas exister. Et il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faut que nous puissions, au fur et à mesure, nous acheminer, parce que c'est extrêmement important, parce que laisser des coins, des points de vente comme la Paternelle en disant que cela n'est pas possible de pouvoir travailler, cela peut faire tache d'huile, parce que toutes les cités se retrouveront aussi un peu dans cette situation, malheureusement. Voilà, donc, voir un peu comment nous pourrions faire, changer les choses, changer les relations. Et entre autres, nous avons un projet, n'est-ce pas, Anne-Marie, sur lequel nous travaillons beaucoup, qui est sur celle de la mémoire. Or, la mémoire de Grand-Saint-Barthélemy, ça ne concerne pas que les quartiers, mais peut-être que ça serait intéressant que l'on puisse tendre vers un projet qui serait la mémoire du quartier, Sainte-Marthe-Saint-Joseph, d'environ, ce qui serait beaucoup plus important de réinscrire ces quartiers dans le contexte marseillais, dans l'histoire de Marseille aussi. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Claude, je vous ai guère entendu, pourriez-vous dire un peu et nous apporter aussi de votre réflexion aussi. Mais il n'y a pas de piège.
Non, Non, pas de piège. En tout cas, mais... merci au docteur Giraud qui doit s'en aller. Merci pour votre présence. Oui, Jean-Claude, nous vous écoutons.
Oui, bien. Au nom du CIQ Sainte-Marthe, je crois pouvoir dire que sur ce qui vient d'être dit, nous y sommes tout à fait favorables pour échanger, pour imaginer des choses en commun dans l'intérêt des habitants et de la vie du quartier de Sainte-Marthe. Alors, noyau villageois, mais bien au-delà, puisqu'il est hors de question de limiter notre rayon d'action à quelques centaines de mètres autour de l'usine Ricard historique, de la gare de Sainte-Marthe, comme de la boulangerie ou de l'épicier du coin. Il y a des besoins certainement d'activités sportives, d'activités culturelles dans les environs. Elles existent en partie par des organismes ou structures différentes qui n'ont pas toutes le même but peut-être, mais elles ont au moins le mérite d'exister et il faut les utiliser. Comment le faire ? Eh bien, de mon point de vue, avec un nombre d'adhérents plus important, même s'il n'est pas négligeable aujourd'hui, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je crois plus de 110 adhérents à notre CIQ. Mais une contribution, une participation plus large serait la bienvenue, car les décisions, les propositions ne doivent pas être prises uniquement par un petit groupe de personnes que je qualifierais de trop restreint aujourd'hui.
D'accord. Anne-Marie, peux-tu rappeler un peu la problématique de la copropriété du mail, hein, parce que cela me semble être important. Peut-être que si au niveau des CUQ aussi, il y a un plus qui peut apporter pour que l'on puisse prendre en compte réellement la situation dramatique de la copropriété du mail, ça peut être aussi intéressant comme point de démarrage et une relation aussi de combat, en fait.
Oui, ça peut être typiquement le type de questions qui traverse à la fois l'action des CIQ. Christiane parlait tout à l'heure de la Morlette. C'est exactement les mêmes problématiques qui se posent. C'est moins dégradé qu'au mail, mais on est sur la question aussi de décision du plan de sauvegarde, de relations entre les propriétaires et les locataires, etc. Et qu'on s'est dit l'autre jour, je le dis maintenant parce que comme ça, je n'oublierai pas de le dire, qu'il y a au moins une chose qui est importante dans nos instances respectives, c'est la question de la prise en compte de l'expertise des habitants qui sont les plus à même de parler de ce qu'ils vivent sur les quartiers et dont l'expertise permet, les trois quarts du temps, de construire des actions, voire des projets, y compris pris en charge par les pouvoirs publics. Et cette expertise, on a d'autant plus intérêt à la qualifier, à la transformer en compétences que si on utilise nos instances comme des lieux de formation aussi. On a beaucoup discuté de ça par rapport au MAI, et l'autre jour on discutait avec Christiane Giraud en disant que ça serait peut-être bien que sur... par exemple, les deux copros, je sais qu'ils l'ont déjà fait à Saint-Joseph, il y a par exemple une instance de formation qui permette aussi aux gens de comprendre ce qui se passe chez eux. Alors, ils savent ce qui se passe. Mais après, ils le disent eux-mêmes, les habitants du Mail, ils ne comprennent plus après tous les méandres, la question du plan de sauvegarde, de la mise en péril, du rôle des syndics de copropriété, des propriétaires, des collectivités là-dedans. Là, on est en plein dedans parce que la copropriété se dégrade tellement que les habitants, à un moment donné, ont décidé de prendre en main une forme d'action. Quand je dis les habitants, c'est les locataires. Puisqu'il y a, je ne sais pas les chiffres aujourd'hui, mais plus beaucoup de propriétaires au mail, propriétaires occupants, hein, je veux dire. Et donc, ils ont fait une manifestation qui a été importante au mois de mai devant la mairie en demandant à être entendu par les pouvoirs publics. Ça a déclenché derrière des rencontres à la fois avec la ville de Marseille, donc il y a au moins une responsabilité sur la question de l'habitat indigne, et avec l'État, puisqu'ils ont été reçus en préfecture par le préfet à l'égalité des chances, et où était présent aussi le préfet de police. Voilà. C'est une copropriété qui cumule à la fois les problèmes de bâti, d'habitat, d'insalubrité, d'indignité totale dans la façon dont c'est respecté tous les espaces communs, en fait. On a quand même... aujourd'hui, deux bâtiments entiers où il y a une panne d'ascenseur qui sont des tours de 18 étages. Ça veut dire que les habitants montent à pied leurs courses, leurs machins, viennent chercher les gamins en bas quand ils arrivent de l'école pour monter avec eux, y compris dans des cages d'escalier dont la lumière au bâtiment B a été en panne encore pendant 15 jours. Donc les gens montaient dans le noir, pour certains, les 18 étages. Les infirmières ne se déplacent plus, les médecins ne veulent plus non plus. Et les familles, notamment celles qui sont dans des situations de handicap ou de dépendance, ne peuvent plus vivre au quotidien, faire leurs courses, recevoir des visites, être soutenues et aidées par des services de santé, etc. Donc c'est un vrai problème. Et le méandre, on va dire, la pieuvre que représente la question des copropriétés, je dirais qu'ici, on a commencé à en prendre connaissance pratiquement quand il y a eu les événements de Noailles, où ça a été pour tout le monde très instructif, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'est-ce que c'était l'habitat insalubre, mais aussi la question des propriétaires, la question de comment tu déclares à un moment donné qu'un habitat est insalubre ou indigne, et comment des propriétaires sont amenés à des moments donnés à être obligés de faire des travaux, comment les collectivités, et en particulier la ville à certains endroits, étaient aussi contraintes de mettre en place des restaurations pour que les habitants puissent vivre de façon indigne. Et là, on est sur le cumul de ce problème-là dans au moins deux bâtiments au Mail, mais aussi sur un problème de squat, c'est-à-dire que pas mal d'appartements sont squattés. Et quand on dit squatté, c'est que certains habitants pensent qu'il y a des accointances entre des propriétaires et des réseaux mafieux et qui occupent les appartements illégalement, qui en font des lieux aussi d'activités. Alors, les habitants parlent de prostitution, mais aussi de trafic de drogue. Et que ça met une pression énorme sur les gens qui vivent dans ces bâtiments. Donc il y a eu un processus d'alerte soutenu par le groupe de veille. Ça a mis pendant un moment la pression à tout le monde. Et du coup, des réunions qui ont eu lieu, organisées à la ville de Marseille par Samia Ghali et ensuite à la préfecture avec le préfet, encore une fois, à l'égalité des chances. Et après, c'est le problème d'une situation qui dure. Il y a eu des effets d'annonce et la situation dure aujourd'hui. Elle dure pourquoi ? À la fois parce que je pense que les effets d'annonce ne sont jamais à la hauteur, on le vit sur la crèche, sur la plaine des loisirs, de ce qui est dit, c'est-à-dire oui, dans 15 jours ça démarre et puis on s'aperçoit 6 mois après qu'on est toujours au point mort. Mais surtout aussi parce que les procédures sont très très longues. Et que quand il y a une décision à un moment donné de faire une étude, pour voir si l'habitat est indigne, s'il y a un plan de sauvegarde ou une mise en péril, ça dure très longtemps après, pour qu'il y ait des premières mesures qui soient mises en œuvre. Or, il a été dit aux habitants, on va traiter ça dans l'urgence. Et vous, comme moi, quand on habite quelque part, l'urgence, c'est l'urgence. Ce n'est pas 3 mois après, on attend encore les résultats de ce qui va se passer, voire les premiers actes, puisque là, on sait qu'il y a eu cette étude qui a été déclenchée il y a 15 jours, alors qu'elle aurait dû être faite déjà au mois de juillet. C'est ce qui avait été promis aux habitants. Voilà, donc on est dans une situation explosive, avec des situations très graves de violence. Christiane parlait de son cabinet au Mail des années où elle y était. Aujourd'hui, il y a un cabinet médical au Mail, un médecin, qui n'a pas de salle d'attente. Pas de salle d'attente, problème de locaux, mais aussi certainement problème de tension. Du coup, les gens attendent dehors. Et les habitants nous décrivent qu'à partir de 5-6 heures du matin, il y a des gens dehors qui attendent, qui font la queue. Au bout d'un moment, il y a des tensions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à une tension extrême il y a quelque temps, où une habitante du bâtiment, qui par ailleurs est présidente de l'association AAMA, qui mène toute l'action actuellement, a été poignardée grièvement alors qu'elle faisait la queue et qu'elle s'est mise en conflit avec une personne qui elle-même faisait la queue et qui était... Et il y a eu dispute entre les deux. Là, récemment, il y a eu aussi un jeune homme qui a été poignardé, alors pas dans la tour, à l'extérieur, mais comme les deux familles concernées par cet acte très violent habitent dans le même bâtiment, ça aboutit à des tensions, des pressions. On alerte depuis quelque temps les pouvoirs publics pour leur dire attention, il risque d'y avoir quelque chose de dramatique, tout autant que ce qui s'est déjà passé est assez dramatique. Et pour le moment, c'est pareil. On a tous les jours des retours du type on s'en occupe. Les dossiers de ces personnes à reloger sont au cabinet du préfet. Et la dernière fois, on leur a dit mais tous les jours sont des jours où on risque un drame. Et on sera tous responsables, vous serez tous responsables de ce qui se passe. Voilà. Et chacun attend. Donc, du coup, on est dans une situation où il y a des endroits, et là, le Mail en fait partie. C'est dans nos attentions, parce que ça concentre absolument actuellement tout ce qu'il peut y avoir d'indignité dans un lieu et où des habitants sont eux-mêmes confrontés à ça au quotidien, voilà. Avec beaucoup de colère. Oui. Beaucoup de colère.
Donc, avec l'expérience de nos quartiers, on observe que l'urgence, ce n'est qu'une notion relative, tout à fait relative, n'est-ce pas, malheureusement.
Pardon ?
qu'une notion tout à fait relative, oui, tout à fait, à l'urgence, hein, au fur et à mesure. Donc, ce qui me semble être aussi important, c'est la présence de Jean-Claude ainsi que de Christiane. C'est que, par exemple, pour Jean-Claude, j'ai l'impression que le CEQ est beaucoup axé sur la défense du service public aussi. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe aussi, qui concerne effectivement aussi nos quartiers, et qu'il y a des actions communes que nous pourrions effectivement mener. Et à juste titre, Anne-Marie a rappelé que pour la distribution des colis, nous avons été saisis notamment par le syndicat sud de la poste de Saint-Bernabé, qui nous sensibilisait à Saint-Barthélemy, pardon, excusez-moi, Saint-Barthélemy, qui nous a interpellés sur cette problématique qui touchait l'ensemble des habitants de la population du Grand Saint-Barthélemy, sachant qu'il y a de plus en plus de personnes isolées, des personnes qui prennent de l'âge, qui ne peuvent pas se déplacer forcément, faire la queue pour obtenir un colis, qu'il y a beaucoup de désagréments en lien avec cette disparition aussi de ce service. Sachant que ce qui avait été proposé, c'est effectivement qu'il n'y ait plus de distribution de colis, mais qu'il y aurait, par exemple, d'un grand supermarché pour lequel je ne vais pas faire la pub, mais qu'il y aurait des casiers pour lesquels les gens, les habitants, se déplaceront pour aller chercher les colis.
C'est déjà un petit peu le cas. Je me suis rendu compte en allant à ce supermarché-là. On savait déjà qu'il y avait des casiers Amazon, mais maintenant, il y a également des casiers Mondial Relais. Donc, il faudra peut-être se voir attendre, recevoir nos colissimo au supermarché. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous avons un micro-trottoir réalisé par Farid. Et Farid veut nous dire deux mots pour pouvoir introduire ce micro-trottoir où il va nous dire un petit peu ce qu'il a posé comme question.
Juste compléter ce qui vient d'être dit par rapport au travail en commun sur, en l'occurrence, la distribution des colis sur ce qu'on appelle encore la poste. Je le redis, service au public et non pas service public. À savoir que la situation est grave pour tous les usagers. Je ne dis pas les abonnés, je choisis bien mes mots. De manière à ce que l'intervention qui a été citée du syndicat Sud, pour qu'elle devienne positive en partie, c'est qu'elle a été voulue en collaboration, en partenariat avec d'autres organisations syndicales, la CGT en l'occurrence. Cette démarche, elle a permis de freiner pendant un temps la suppression annoncée par la direction des postes de 43 facteurs sur la zone. Elle se fait progressivement, malheureusement, parce que les citoyens n'interviennent pas suffisamment avec les structures qui défendent ce sujet. Je vais dire quelque chose que je qualifie de honteux envers ce qu'est la direction des postes. Ils ont proposé aux facteurs de collecter les trottinettes dans les environs pour maintenir leur emploi. C'est, de mon point de vue, purement scandaleux. Qu'un bureau de poste, un distributeur de billets dans une zone soit indispensable, parce qu'on le voit au moment du paiement des pensions, par exemple, la queue, les maîtres de queue qui se trouvent devant nos bureaux de poste, c'est inacceptable. Quand on se rend compte qu'il y a davantage de personnel de sécurité à l'intérieur, voire à l'extérieur des bureaux de poste, au lieu d'avoir du personnel qualifié et ayant un emploi pérenne, c'est aussi des phénomènes qui gênent, créent des conflits et deviennent paradoxalement des lieux de bagarre, malheureusement. Donc cet exemple de partenariat syndical est assez significatif et démontre qu'on peut le trouver, on peut le reconduire, le reproduire avec diverses associations, voire divers comités d'intérêt de quartier, puisque c'est le thème de base. Un quartier, pour moi, ce n'est pas une frontière où chacun doit rester chez soi et être autonome dans ses démarches. Donc ce type d'exemple envers les mairies de secteur en particulier par l'intervention du CEQ Sainte-Marthe a été positive un temps, mais ce n'est pas du tout sûr que la situation soit maintenue à destination des attentes de chacun dans les quartiers.
Oui, c'est juste pour compléter, il ne faut pas oublier les personnes âgées, handicapées. Et ça, c'est vachement important, qui ne sont pas du tout distribués et qui ont une grosse inquiétude aussi par rapport à la poste. Moi, je reviens par rapport au micro-trottoir. Ça a été un petit peu difficile, je ne vous cache pas. J'ai eu tendance à faire aussi des questions et des réponses tout seul parce que les CIQ ne connaissent pas du tout. Je vous laisse faire, voilà, je vous laisse écouter le micro-trottoir que j'ai fait. Sidi ?
Merci Sidi pour la lecture.
Les échos du Grand Saint-Barthélemy en direct au sein de la Busserine avec une habitante de quartier. Je vais lui poser la question concernant les CIQ. Bonjour, Afina, est-ce que tu connais les CIQ ? Tu sais ce que c'est ?
Non, je ne sais pas.
Les CIQ, c'est Centre d'intérêt de quartier. Mmh. C'est comme les associations locataires. Mmh. Voilà. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas ?
Oui, peut-être.
Ils se trouvent où, les CIQ ?
Ah bah, je crois que ça se trouve dans le quartier, là où il y a les locataires, ou en bas au rez-de-chaussée, des habitants où ils vivent, des immeubles, ou bien... Je ne sais pas trop exactement.
Figure-toi que ça se trouve plutôt dans les noyaux villageois, Saint-Joseph, oui. Sainte-Marthe. Et c'est vrai que les CIQ ont un rapport de force, ils ont tendance à être entendus et en même temps écoutés. Nous, ici, on a les associations de locataires, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que les CIQ sont vraiment bien représentés. Est-ce que toi, en tant qu'habitant de quartier, tu aimerais connaître les CIQ ?
Oui, je voudrais bien connaître la CIQ.
Ouais.
Oui.
Ouais. Je te dirais éventuellement à l'occasion, si on les reçoit, on te présentera et tout.
Oui, surtout savoir en quel bénéfice on peut avoir, des inconvénients et tout.
Ouais. Surtout dans le domaine du logement, dans le domaine des voiries, tout ce qui touche ta vie quotidienne, quoi.
D'accord.
Ouais. Qu'est-ce que tu en penserais ?
J'en pense que c'est bien. D'accord. Qu'il faut connaître, savoir ce qu'il faut faire.
En tout cas, tu veux leur laisser un message au président qui sont en train de t'écouter ?
D'accord, je veux dire que je suis intéressée de savoir ce que c'est, développer et savoir s'il y a des choses qui me concernent par rapport au logement, aux voisins, aux habitations et tout.
Et tu as une question à leur poser ?
S'ils peuvent faire en sorte que surtout les locataires s'attendent bien vu qu'on est voisines, c'est tout. D'accord. Si on peut se cohabiter par rapport aux enfants, par rapport à ce qui se passe au quotidien, entre nous, entre les voisins.
D'accord. Être solidaire.
Oui, être solidaire. Quoi.
D'accord. Merci, Afina.
Merci beaucoup, Farid.
Au revoir.
Au revoir.
En direct, les échos du Grand Saint-Barthélemy au sein du Centre social Flamand Iris. Je suis au Flamand Iris avec des habitants des Flamand Iris, notamment de la Marjorée. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Je voulais savoir éventuellement sur la thématique qui va se dérouler le jeudi 20 octobre à 13h30 au sein du comité Maméga. La thématique, c'est « Connaissez-vous les CIQ du quartier ?» Et je voulais poser la question éventuellement si vous connaissez les CIQ des quartiers.
Non, moi je ne connais pas.
Et vous ?
Pas du tout. Moi aussi, je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas. Les CIQ, pour vous répondre, c'est des associations plus ou moins... Comme des associations de locataires, ça s'appelle Centre d'intérêt de quartier. Voilà. Est-ce que éventuellement ça vous a jamais interpellé ces associations-là qui est la CIQ ?
Non, j'ai pas eu besoin.
Non.
Oui, ça m'interpelle depuis longtemps parce que j'aimerais comprendre quelle est la différence entre une association de locataires et un CIQ et pourquoi un CIQ a plus de pouvoir qu'une association de locataires.
Et tu t'es jamais posé la question concernant les CIQ qui ne sont pas dans les quartiers QPV ?
Alors pour moi, ils ne sont pas en QPV, je me suis dit, parce que c'est des bailleurs sociaux, des logements sociaux. Mais après, je n'ai pas trop de réponses par rapport à toutes ces questions.
Une question par rapport aux CIQ ? Si vous voulez, parce qu'ils vous répondront lors de l'émission.
Moi, j'aimerais savoir c'est quoi leur engagement envers les locataires.
Et vous ? Qu'est-ce que vous pouvez poser comme question pour le CIQ ?
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la même question comme elle. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous ?
D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander pour qu'ils puissent éventuellement vous aider ?
Oui, la maison.
Chercher un appartement. Ah oui, normal. Non, mais c'est tout à fait normal, c'est logique. Merci d'avoir récolté la parole. Et on fait une pause musicale.
Donc, comme nous le voyons bien, dans les croyances populaires, entre guillemets, le CIQ, association de locataires, on fait un petit peu un amalgame. C'est un bailleur social. Bon,
D'où l'utilité réellement des échos du grain
de sel de cette émission autour des CIQ.
Qui permettent de pouvoir aussi cerner un peu qu'est-ce que peut être un comité d'intérêt de quartier, n'est-ce pas ?
En sachant que nous avons eu au micro-trottoir des travailleurs sociaux et des habitants. Donc aussi bien le professionnel que l'habitant n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un CIQ. Et pourtant, vous êtes si proche de nous.
Si proche et si loin.
Oui, juste réajuster que le mot CIQ veut dire comité d'intérêt de quartier, et pas centre, même s'il se situe historiquement dans des cœurs de quartier et dits de villages, voire, mais ceci est le hasard des lieux d'implantation et des locaux mis à disposition ou utilisables, tout simplement. Le rôle du comité d'intérêt de quartier, il est d'agir avec les populations et pas à la place des populations. Donc il peut aider à diverses démarches, il peut informer dans deux sens, envers les pouvoirs publics comme envers les citoyens, faire part de leurs sollicitations, des citoyens en particulier, mais aussi l'indispensable est que chacun se mobilise et agisse collectivement pour que des sujets qui sont communs, tels que le logement qui a été évoqué, les difficultés, le relationnel dans une zone géographique puisse s'améliorer. Et ce n'est pas le CIQ qui le fera à la place des habitants, mais, je le redis fermement, avec les habitants qui agiront ensemble, qui, de mon point de vue, doivent se rapprocher du comité d'intérêt de quartier par une adhésion qui démontrera l'intérêt du sujet collectivement.
Comme l'heure tourne, nous souhaiterions savoir un peu quelles sont les coordonnées possibles si des habitants écoutent l'émission, seraient intéressés de participer parce qu'il me semble que ce que vous dites est cerné bien, ce sont beaucoup plus des actions collectives que des démarches individuelles et que dans ce sens-là, il faut que les personnes puissent avoir un contact, savoir où vous vous situez, que vous puissiez nous communiquer vos coordonnées et que vous puissiez profiter de l'occasion de communiquer une manifestation, un événement que vous organisez samedi prochain, me semble-t-il.
Dans l'ordre, où se situe le comité d'intérêt de quartier de Sainte-Marthe, son adresse siège est 2 rue Bertorello, dans le 14e. C'est une ancienne école communale qui est dans la rue principale du village de Sainte-Marthe. Ses coordonnées téléphoniques sont le 06 34 45 53 83. Il a également une adresse mail courriel qui est le CIQ Sainte-Marthe en un seul mot, @gmail.com. Il y a une permanence le jeudi après-midi de 14h30 à 16h à cette adresse 2 rue Bertorello, qui permet Bertolo, c'est une déformation professionnelle. Et ensuite, pour terminer au niveau du CIQ Sainte-Marthe, faire part d'une manifestation qui devrait être sympathique et l'occasion de mettre en contact des habitants avec les responsables du comité d'intérêt de quartier. Un vide-grenier qui se tiendra samedi 22 octobre, donc dans 48 heures. Boulevard des Peupliers dans le 14e, qui est un parking des anciens locaux Ricard. Il sera ouvert de 9h à 15h30. L'emplacement et d'un coût de 10 euros ou de 8 euros pour les adhérents et sera à disposition de tous les gens, même hors quartier, contrairement à ce qui se dit certaines fois, le comité d'intérêt quartier n'a pas de limite dans ses relations avec les habitants du secteur, voire de Marseille. Merci.
Merci Monsieur Foss. Nous allons nous laisser une nouvelle respiration musicale avec un morceau d'Idir qui s'appelle l'hymne de nos campagnes, même si elles sont bien loin nos campagnes sur nos territoires.
Et dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses.
puisse y voir un petit brin d'herbe. Elle émane pour faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose.
Je suis neuf. واحد النور يسافنا لنوا مان سوا انت تغزا
شنو مورد كتشر تغريني الخنا
با دو بولو با دو ديبلوم بارتو لا ميم
اودور دو زون بلو ريان اجيت تي نورون
با ميم لو شيت كو تو مي دون تي كون
افانت واكادي تيفنان اجنا خام ديم فلس وغنلد الكرا يكران كول غور ارضي خلاص
Céline de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal.
Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mal, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
D'amour et de tsaï maoulan, hadhi chi yakoulna kini.
Lève la tête, regarde ces feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
Je suis là, et tout le monde, c'est toi le monde, c'est le monde, la nuit même, c'est toi le monde, c'est
le monde. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira à la croissance de tes mamots. Servira à la croissance de tes mamots.
Je suis là, et
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey.
Les animateurs des Échos du Grand Saint-Barthélemy avec vous sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie. Et du coup, de nos invités, à l'exception de Madame Giraud qui a dû partir à 2h30. Mais reste avec nous Monsieur Jean-Claude Fosse et Madame Anne-Marie Tagawa. Nous sommes dans la dernière partie d'émission qui correspond au communiqué de presse. Donc je laisse la parole à Anne-Marie pour nous parler un petit peu de l'actualité du groupe de veille. Rapidement. Anne-Marie, ton micro.
Excusez-moi. Rapidement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on a dites ou que j'ai dites, c'est l'actualité, c'est quoi? C'est toute l'action sur la question de la gestion des ordures ménagères, qui n'est pas une petite histoire. Et c'est, on disait à l'instant là-dessus, qu'on a peut-être un travail à faire en commun, parce que là aussi, on est sur des méandres entre les responsabilités de la métropole, aujourd'hui de la ville de Marseille, parce que du coup, il y a des gestions communes des espaces à nettoyer, la question des rapports aussi avec les systèmes existants sur nos quartiers qui organisent des checkpoints, voire des chicanes à l'entrée des cités et qui devraient être ramassés normalement par la métropole, qui ne refuse de le faire, en tous les cas chez nous, qui refuse de le faire parce que, disent-ils, ils peuvent pas le faire parce que c'est le réseau qui a mis ça en place et qui sont, voilà. C'est quand même ce qui est répondu à des habitants. Voilà. Christiane Giraud disait l'autre jour qu'elle avait eu entendu quelqu'un de la métropole lui dire, en fait, on ramasse partout sans problème, il n'y a que la busserine qu'on n'arrive pas. Ce qui est quand même un peu spécial comme propos. Donc l'actualité, c'est ça. C'est toute l'action qu'on continue à mettre en œuvre là-dessus. L'autre actualité, c'est la plaine des loisirs. On vient de refaire parvenir aux élus concernés toute la volonté du groupe de veille qui a été déjà dit dans plusieurs rencontres, et notamment dans les ateliers de concertation, pour organiser le chantier, communiquer aux habitants, obtenir absolument un phasage du chantier et des réunions de chantier régulières, c'est un chantier qui va durer un an, et organiser surtout le recrutement organiser, soutenir et accompagner par les structures du territoire des personnels, des personnes qui vont travailler sur ce chantier, puisqu'il y a 7 entreprises différentes qui vont se partager le chantier en question, qui quand même, pour la petite histoire, fait 8 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et puis, la troisième chose qui continue à être notre préoccupation, mais qui avance, même si c'est lent, c'est la crèche de l'œuf qui va donc rouvrir avec un double de lits de ce qui était au départ. Et par contre, des travaux qui étant assez importants, en termes de financement y compris, demandent un peu plus de temps dans la mise en œuvre. Voilà, sur les 3 actualités.
Merci beaucoup Anne-Marie. Donc, est disponible actuellement le programme de l'espace culturel Busserine pour l'automne 2022, où sont mis en place des pièces de théâtre, de la musique, de la danse, des marionnettes, des contes. Et d'autres choses. Vous pouvez retrouver l'actualité de l'espace culturel Busserine en allant directement sur place ou bien simplement en allant sur le Facebook qui est Culture Busserine. Sinon, le comité Mamega, en partenariat avec les associations La Collective et Mamanté, participe à la carte blanche à Marie Scondé qui aura lieu au MUSEM les 25 et 26 novembre. Les échos du Grand Saint-Barthélemy touche à leur fin. Nous n'oublions pas de rappeler que cette émission ne peut être réalisée sans le soutien de la politique de la ville pour l'État, c'est-à-dire l'ANCT, et les services de la politique de la ville de la métropole. Je remercie également notre ami Sidi Diallo, le technicien de Radio Galère, sans oublier Farid du comité Mamega pour son micro-trottoir en lien avec Richard Martini, ainsi que mes co-animateurs Saïd Karima et Jean-Marc, même si c'est l'homme de l'ombre. Je remercie naturellement nos invités pour tout le temps qu'ils nous ont accordé. Et nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Galère en novembre pour une nouvelle émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Nous laissons une nouvelle respiration musicale, la dernière cette fois-ci, avec Massilia Sound System, toujours et toujours. Jo Corbeau ? Oui, mais attendez, j'ai oublié quelque chose encore. Le groupe Quartier Nord passe à la bibliothèque du Merlan samedi 22 octobre à 16h. Et oui.
Et tu peux rajouter comme quoi l'émission repassera.
Je l'ai dit en début d'émission, mais je peux répéter qu'effectivement, l'émission repassera sur notre créneau habituel la semaine prochaine. Donc, Sidi, joue la dernière respiration musicale. Celle que tu joues celle que tu veux.
De la sardine qui bouge à le vieux port, qui ne connaît Marseille, porte de l'Afrique, qui ne connaît Marseille, porte de l'Asie, terre d'accueil des peuples du soleil. Réchauffe mon sang, sans douleur, loin des cris de la foule en deuil qui pleure Babylone. Qui ne connaît Marseille, porte de l'Afrique, et qui ne connaît Marseille, porte de l'Asie, terre d'accueil des peuples du soleil. L'avenir t'appartient. Qui ne connaît Marseille, porte de l'Afrique, qui ne
ne connaît Marseille, porte de l'Asie, terre d'accueil des peuples du soleil.
Thank you.